RFI Soir, Hervé Guine.
RFI Soir consacré aujourd'hui à la crise haïtienne, crise toujours très confuse et manifestement dans l'impasse. Nous allons faire un point complet au cours de cette heure d'information avec en studio Philomé Robert, journaliste haïtien, Christian Giraud, chercheur au CNRS, spécialiste des Caraïbes. Vous avez notamment publié, Christian Giraud, avec Gérald Barthélémy, La République haïtienne aux éditions Cartala, avec Anne Corpé. Vous venez de passer 3 semaines en reportage en Haïti. Vous avez assisté, je dirais, un peu à la montée des périls. Et puis tout de suite en ligne de Port-au-Prince, ou en tout cas entre Saint-Marc et Port-au-Prince, Catherine Monet. Catherine, bonsoir.
Bonjour, en fait je vous dis bonjour parce qu'ici il n'est que 13h.
Exact, il n'est que 13h30. Alors je disais donc, a priori, impasse totale entre les principaux protagonistes, le président Aristide qui refuse toujours de démissionner comme le réclament ses opposants de tous bords, et puis la moitié du pays sous contrôle des rebelles. Ces dernières heures, on disait que la pression était de plus en plus forte sur Port-au-Prince, une capitale qui se barricadait ici ou là à l'initiative des forces soutenant le président. Où est-ce qu'on en est à la mi-journée aujourd'hui? Donc à Port-au-Prince.
Alors en fait, étrangement, les barricades qui avaient fait leur apparition hier et la tension qui était nettement montée d'un cran hier dans la capitale, ces barricades ont disparu ce matin et la vie reprenait progressivement à la normale. De nouveau, il y avait beaucoup de gens dans les rues et il n'y avait plus de traces des chimères des milices proches du président Aristide comme hier. Par contre, hier, effectivement, tout d'un coup, les chimères avaient fait leur apparition dans les rues. Tous les carrefours stratégiques de la ville étaient contrôlés par ces milices, et apparemment ce que les gens disaient, c'est que comme le chef des insurgés, Guy Philippe, avait annoncé quelques jours auparavant qu'il avait l'intention d'attaquer la capitale Port-au-Prince avant la fin du carnaval et que le carnaval s'est terminé mardi, eh bien tous les gens, tout le monde s'attendait un peu à une attaque imminente des insurgés. Mais aux dernières nouvelles, Guy Philippe a déclaré sur une des radios haïtiennes, une des radios indépendantes haïtiennes, que pour l'instant il n'était pas finalement question d'attaquer la capitale, et en tout cas qu'il essaierait d'éviter de le faire s'il y avait un accord politique. Vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup de négociations qui se produisent dans les couloirs un peu des chancelleries occidentales, notamment françaises et américaines. Les dernières rumeurs parlent actuellement de possibles tractations pour un départ du président Aristide, et que dans ces cas-là, Guy Philippe estimait que si le président Aristide partait bien du pays, eh bien, il n'investirait pas la capitale pour éviter qu'il y ait des problèmes, des émeutes, des pillages, car il se rend bien compte apparemment qu'il y a une possibilité qu'il perde le contrôle de la situation si ses troupes, ou si les insurgés en tout cas, entrent en action dans Port-au-Prince.
Oui, il y a manifestement une possibilité peut-être d'éviter le chaos. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui le pouvoir calme un petit peu le jeu à Port-au-Prince après avoir fait via les chimères une sorte de démonstration de force hier.
Oui, c'est une sorte de démonstration de force, effectivement, quand les chimères sortent dans la rue, parce que ça maintient une tension. Et là, dans le cas présent, hier, ça a carrément fait monter la tension, et ça fait peur aux gens. Et c'est aussi un message. Une des personnes à qui je parlais hier disait bien, on est là pour montrer qu'on contrôle la situation, on est là pour montrer aux rebelles qu'on est prêt à défendre la ville. Donc c'est un message un peu à destination des rebelles.
Catherine Monet, encore un mot. Vous êtes allé aujourd'hui à Saint-Marc, donc qui a une petite centaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince. Quelle est la situation là? On sait que c'est une ville qui est un petit peu stratégique, je dirais, sur la route des rebelles vers Port-au-Prince.
Oui, c'est une ville un peu stratégique parce qu'elle, si vous voulez, elle relie, c'est la ville principale qui relie Gonaïves, où est partie l'insurrection armée, où sont basés les rebelles, et la capitale Port-au-Prince. C'est un passage un peu obligé de la route principale qui mène du nord à la capitale. Eh bien, écoutez, en fait, là, la situation est encore un peu tendue là-bas. Il y a eu des renforts de policiers ces derniers jours qui continuent d'arriver en ville. Certains quartiers sont très calmes. C'était les quartiers du Ramikos, où étaient notamment les opposants au pouvoir. Ces quartiers-là sont toujours aussi calmes, il n'y a quasiment personne, tout le quartier a été déserté. Et puis les chimères, enfin ce ne sont pas les chimères, on ne les appelle pas là-bas, ce sont les milices des Ballets Rougés qui tiennent la ville et qui disent qu'ils sont prêts à recevoir les rebelles. Un conteneur à l'entrée sud de la ville est prêt à être mis en place pour barrer complètement la route. côté nord, la route est entièrement barrée par un conteneur et aucune voiture ne peut circuler. Et les Valets Rouget eux-mêmes se disent prêts donc à recevoir les rebelles. Et certains d'entre eux sont un peu nerveux. On a dû en fait quitter la ville un peu précipitamment car le journaliste haïtien qui était avec nous a été pris à partie par le numéro 3 des Valets Rouget.
Donc situation toujours un petit peu tendue du côté de Saint-Marc. Catherine, merci. On vous retrouve bien sûr sur les autres éditions sur RFI et sur Radio France Internationale. Envoyé spécial en Haïti, Philomé Robert, on a le sentiment, là effectivement, Catherine faisait allusion à des tractations possibles, on sait qu'une délégation gouvernementale menée par le ministre haïtien des Affaires étrangères est arrivée à Paris pour rencontrer demain le ministre français des Affaires étrangères. Est-ce qu'on peut imaginer soit alors un départ négocié ou une formule de ce type?
Évidemment, c'est ce qui devrait être à l'ordre du jour, la négociation entre l'actuel régime et les acteurs internationaux. Le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, ainsi que le département d'État américain, qui a eu pendant ces derniers jours des positions, somme toute, assez mitigées hein, sur la situation en Haïti. Peut-on envisager une solution négociée? Oui, dans la mesure où Jean-Bertrand Aristide, le président, accepte de jouer le jeu et suivre en quelque sorte les conseils, somme toute, amicaux que lui a donné la France, à savoir jeter l'éponge afin d'éviter un bain de sang.
Christian Giraud, c'est ce qu'on peut effectivement, c'est comme cela que l'on peut interpréter la dernière prise de position du ministre français des Affaires étrangères, hein, au président Aristide de tirer les conséquences. Il porte une lourde responsabilité.
Oui, je crois qu'effectivement le ministre français lance la balle dans le camp du gouvernement haïtien tel qu'il est à l'heure actuelle. Ceci dit, la situation à Port-au-Prince ne montre pas pour l'instant que le pouvoir faiblit. Enfin, il semble qu'il y ait une sorte d'équilibre des forces à Port-au-Prince. L'opposition est très active, très organisée. Il y a eu des manifestations très importantes. Mais il semble que le pouvoir en place conserve quand même des appuis populaires dans les quartiers populaires, dans les quartiers pauvres, qui sont encore assez marqués. Oui, donc enfin, il n'y a pas une désintégration du pouvoir pour l'instant.
Non, mais enfin manifestement, il y a un certain nombre de villes qui sont tombées dans le nord.
Le nord
et
oui.
Là, il y a une réelle dangerosité à Port-au-Prince.
Ah oui, alors mais il s'agit d'un autre acteur. Il ne s'agit pas là de l'opposition politique. Il s'agit simplement de militaires ou d'ex-militaires, d'anciens policiers qui ont pris un certain nombre de villes du Nord, et effectivement, ils contrôlent pratiquement la moitié du pays dans le Nord. Mais c'est une situation complètement différente. Il ne s'agit pas d'acteurs politiques, il s'agit de militaires.
Alors, pour bien comprendre justement tout ce qui s'est passé au cours des trois dernières semaines, puisque en fait, la crise a commencé aux alentours de septembre-octobre 2003, mais en fait, les choses se sont accélérées au cours des trois dernières semaines. Avec vous, Anne Corpé, nous allons revivre une première manifestation. Nous sommes le dimanche 15 février dernier à Port-au-Prince.
Oui, c'était une manifestation qui a rassemblé, je dirais, 2000 personnes. Cela ne veut pas dire que la mobilisation ait été faible, car il y avait des barrages de police un peu partout qui empêchaient une forte mobilisation, une manifestation qui s'est somme toute bien déroulée.
On écoute votre reportage.
Qu'il le veuille ou non, Aristide doit s'en aller, chante l'opposition à Pétionville sur les hauteurs de Port-au-Prince. C'est le départ d'une manifestation, déjà reportée deux fois au cours de la semaine. Le parcours vient d'être modifié par la police. Un barrage filtre la circulation sur la route d'accès principal. Sein du drapeau haïtien, portrait de la Vierge entre les mains, un homme harangue les arrivants.
Nous voulons le départ d'Aristide. Il faut qu'il s'en aille pour que Haïti puisse vivre. Il faut qu'il s'en aille pour que le peuple haïtien puisse vivre librement. Vous savez que Haïti est l'avant-dernier pays le plus pauvre du monde. Et Haïti est paradoxalement le quatrième pays à dépenser à Washington en lobby pour éterniser un régime totalitaire en Haïti. C'est contre ça que nous manifestons ici. Et ils peuvent me tuer, mais ils ne pourront jamais tuer Haïti.
Liberté ou la mort, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur de chimère.
Le cortège entame sa descente vers la route d'Elma, artère essentielle de la ville. En tête, derrière une banderole, marche André Appéd, Andy, dit-on ici, homme d'affaires, responsable de la plateforme démocratique.
L'amalgame que les lobbyistes de M. Aristide font entre le mouvement du Nord d'Haïti, qui est un mouvement qui a débuté avec des gens qui se sont rebellés contre M. Aristide avec les armes que M. Aristide leur a donné, l'amalgame qui est fait entre ces gens et notre mouvement non violent et pacifique est destiné à justifier la violence qui peut nous être faite. Et nous ne voulons pas tomber dans le piège, mais nous sommes déterminés et nous sommes en train de faire de notre mieux ce matin pour qu'on puisse identifier notre mouvement pour ce qu'il est. Un mouvement de tous les secteurs organisés de la société civile haïtienne qui veut, de manière non violente et pacifique, obtenir la démission de M. Aristide.
Mais c'est bien Gonaïves que la foule salue en chœur, la ville contrôlée par le front armé de résistance. L'objectif des manifestants et celui de ce groupe d'anciens militaires et de jeunes miliciens est le même, faire tomber Aristide. Mais les moyens employés diffèrent. Marie-Denise Claude de la Plateforme démocratique.
Nous sommes une organisation non violente. Nous voulons rester non violente. Et nous allons rester non violents. Nous allons continuer à demander à la population de sortir dans la rue pour contribuer, pour demander le départ du gouvernement Aristide, parce que justement, il représente la violence. On ne peut pas aller dans une élection avec un gouvernement qui vraiment fait de la violence systématique sur toute la population.
Alléluia, alléluia.
Patrick Mina, syndicaliste, membre de la plateforme démocratique Renchérie, une seule solution, le départ de Jean-Bertrand Aristide.
C'est sous le même régime qu'on a trompé la bonne vigilance de tout le monde, la communauté internationale. Alors, la soirée du 21 mai 2000, on a volé, on a remplacé toutes les boîtes d'urnes, on a vu joncher par terre les bulletins de vote. C'est sous ce même régime. On a organisé aussi les élections du 26 novembre. Personne n'a été aux élections. Ils ont rempli la boîte. Donc maintenant, mais comment on pourrait organiser des élections?
Donc la seule solution, c'est le départ d'Aristide.
Mais mon Dieu, c'est oui, parce que la Constitution est très claire là-dessus. Un président qui fait des choses graves doit laisser le pouvoir. C'est le seul, le Parlement, en haute cour de justice, qui peut, n'est-ce pas, le destituer. Donc, si on n'en vend pas de Parlement, peut-être le seul grand Parlement, c'est le peuple. Donc, en disant non.
Qui à la place d'Aristide?
Ah, bon, il y a beaucoup d'hommes dans le pays, vous savez. Donc, il y a beaucoup d'hommes dans le pays, d'hommes honnêtes, de femmes honnêtes. Ils sont là. Nous sommes en consultation.
Vous n'avez pas de nom?
Non, pas pour l'instant, vous voyez. Pour l'état de sécurité aussi, on ne peut pas dire le nom. Donc, pour l'instant, on ne peut pas le dire. Mais quand même, nous travaillons.
Ici, nous sommes devant la Radio Haïti Inter,
propriété de Jean-Léopold Dominique, assassiné le 3 avril 2000, comme vous le savez. Et Radio Haïti a dû cesser d'émettre depuis février 2003. Voilà. Là, il demande justice pour Jean-Dominique, assassiné.
Sous combat criminel, côté Jean-Dominique, c'est Aristide, il a assassiné Jean-Dominique, le PDG de la Radio Haïti Inter. Il a assassiné, c'était notre plus grand journaliste. Il a assassiné Aristide.
Aristide n'est pas notre président, il est un chef de gang. Il n'a pas le comportement d'un président. C'est un chef de gang.
Beaucoup de personnes ont été tuées par Jean-Bertrand Aristide à Saint-Marc sur la population civile. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous demandons à Jacques Chirac de supporter la démocratie en Haïti.
À Port-au-Prince, on parle de liste noire dressée dans les allées du pouvoir. Villès Alizard, coordinateur à la NCHR, organisation haïtienne de défense des droits de l'homme.
À le pouvoir a des émissions à la radio et à la télévision. Dans ces émissions-là, on pointe du doigt les organisations des droits humains. Donc tout le monde le sait. Et le pouvoir ne cache pas ses intentions également. De s'en prendre aux organisations des droits humains. Donc c'est public. Les partisans du pouvoir peuvent faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Il n'y aura aucune poursuite judiciaire. Il n'y a pas l'indépendance de la magistrature en Haïti. L'institution policière, tout ça, c'est politisé au service d'un parti, au service du pouvoir. Donc à ce moment-là, la situation est extrêmement difficile. Bon, depuis des menaces constantes, nous continuons à faire notre travail. Ceux-là qui nous persécutent, ils nous connaissent parfaitement bien. Et ils connaissent nos coins et recoins. À ce moment-là, c'est extrêmement difficile de prendre des mesures particulières justement pour se protéger. Mais cependant, c'est pas en éliminant quelqu'un on pourra résoudre un problème. C'est un problème politique, donc nous, nous sommes déterminés à continuer notre travail. Aujourd'hui, il est clair, et on n'a pas seulement laissé la voie démocratique, mais on emprunte une autre voie, la voie de l'autoritarisme, la voie de la dictature. Alors, maintenant, on s'avance tout droit vers une dictature.
La manifestation parvient au coin de la route Delma 42. Le cortège s'arrête, piétine, s'inquiète.
En fait, il y a des informations selon lesquelles des chimères attaquent de temps en temps les manifestants. Tout à l'heure, il y avait des pierres qui sortaient de certaines maisons-là. Et voilà pourquoi ces étudiants-là essayent de mobiliser les autres et pour que la manifestation puisse continuer. Voilà comment.
Les chimères, ces partisans armés d'Aristide attendent les manifestants un peu plus bas, au coin de Delma 32.
Il y a des partisans de la Valas qui se sont massés autour de la maison, et tout en laissant des jets de pierre, c'est ce que vous voyez là, et c'est ça. Il y a une réplique ici.
Allons, des bouteilles.
La police anti-émeute se déploie entre la foule et ses assaillants.
En direction de ceux qui jettent des pierres sur la manifestation.
La manifestation de l'opposition se disperse avant de parvenir à son terme. Même les étudiants les plus motivés ont déserté la route d'Elma. Seuls les partisans d'Aristide restent un peu plus bas. Aristide, 5 ans, et pourquoi pas 10 ans, crie la foule serrée derrière un cordon policier.
Ce sont des chimères de la Valas.
Ils veulent empêcher la manifestation de passer ?
Oui.
Vous avez l'ordre de contenir les Lavalas ?
De la Valas.
On demande toute l'aide possible des États-Unis pour lutter contre le terrorisme. André Appel, le chef de la plateforme, est un terroriste. Les États-Unis recherchent Ben Laden, mais il faudrait aussi qu'ils arrêtent Appel. Tous les terroristes sont pareils. Ceux qui acheminent des armes au Gonaïf pour tuer des policiers ou incendier des commissariats sont des terroristes.
Pour craser commissariat, c'est terroriste.
Vous comparez Appel et Ben Laden, oui. Pour vous, c'est la même chose.
Oui, c'est la même chose.
Oui, c'est la même chose. C'est pourquoi les États-Unis devraient intervenir pour nous en débarrasser, pour nous débarrasser de ces gens qui terrorisent la population.
Les États-Unis doivent terroriser la population. Peuple haïtien, après je ne le dis.
Si Aristide pas là, qui va le remplacer, interroge pertinent les partisans du président.
Voilà, tension donc évidente, c'était il y a une dizaine de jours. La situation ne s'est évidemment pas améliorée, au contraire. On a entendu au cours de ce reportage d'Anne Corpé, la question évidemment, c'est bon, plus Aristide, mais qui pour la relève? Beaucoup d'hommes, dit l'un des interlocuteurs, mais y a-t-il un leadership crédible, Philomé Robert?
Un leadership crédible, je ne dirais pas. Cependant, il y a quand même des gens qui sont prêts aujourd'hui à se battre pour ce pays. J'ajouterais aussi que les mécanismes légaux existent quand même, qui prévoit comment remplacer un président défaillant, comme c'est le cas aujourd'hui de Jean-Bertrand Aristide.
Est-ce que l'opposition n'est pas pour le moment extrêmement divisée, dispersée, genre nébuleuse?
Elle l'a toujours été, elle a eu du mal à se mettre en place. C'est quand même des gens venus d'horizons divers qui ont quand même constitué cette plateforme, et à mon avis, il devrait y avoir une solution. Ils ne peuvent pas avoir fait tout ce chemin pour finalement aboutir à rien du tout.
Christian Giraud, des interlocuteurs pour la communauté internationale, par exemple, on sait qu'il y a une délégation gouvernementale, mais l'opposition a refusé de venir à Paris.
Oui, il y a ou un vide ou un trop-plein. En fait, apparemment, il y a trop de monde là. Il y a un panorama extrêmement large d'organisations qui sont en fait des petites organisations. Il n'y a pas de vrai parti en Haïti. Et c'est un des problèmes en réalité, c'est que les forces politiques ne sont pas très bien structurées. Et donc, les groupes politiques sont organisés en général autour de figures, d'un certain nombre de figures qui sont en avant. Mais derrière, il y a quelques dizaines de militants seulement.
Et il n'y a pas de programme.
Il n'y a pas vraiment de programme. Donc finalement, on trouve la gauche, la droite. Alors évidemment, en ce moment, ils sont déterminés, toutes ces organisations sont déterminées à renverser le président Aristide et à chasser son gouvernement. Mais c'est leur point commun, c'est leur seul point commun.
Reste à imaginer effectivement la relève et l'alternative. Merci.
RFI Soir, Hervé Guille.
RF Histoire, deuxième partie de notre session consacrée à la situation en Haïti avec Philomé Robert, journaliste haïtien, Anne Corpé de retour de Haïti et Christian Giraud, spécialiste des Caraïbes, chercheur au CNRS. Christian Giraud, en fin de première partie, on évoquait la dispersion un petit peu de l'opposition. Vous disiez qu'il n'y avait pas forcément de programme politique. Il y a tout de même la plateforme démocratique qui est tout à fait d'accord pour venir à Paris dès lors que, évidemment, elle peut trouver une délégation peut trouver un avion, refuse de rencontrer la délégation gouvernementale haïtienne qui est arrivée. Mais là, c'est tout de même une plateforme qui peut proposer quelque chose.
Oui, mais ils n'ont qu'une revendication, c'est le départ d'Aristide. En fait, c'est leur seul point de conjonction, et il est symptomatique qu'ils vont pas rencontrer les représentants du gouvernement haïtien. Donc ça sera encore une fois un dialogue de sourds, puisqu'en fait ils rencontreront séparément le ministre des Affaires étrangères français, d'un côté donc les représentants du gouvernement haïtien, et de l'autre côté les représentants de la plateforme démocratique. Donc il y a pas le vrai dialogue finalement.
Philomé Robert. Je pense quasiment la même chose, sauf que je me permets de m'interroger en fait sur ce que cette rencontre, si jamais elle se faisait, pourrait donner, en fait, dans la mesure où, à mon avis, Jean-Marc Aristide et son équipe ont quasiment franchi la ligne rouge. Il n'y a, me semble-t-il, aucune possibilité de retour compte tenu de l'état de dégradation de la situation en Haïti aujourd'hui. Et c'est pour cela, à mon avis, que la France a demandé au président Aristide de tirer toutes les conséquences de ce qui se passe là maintenant et donc de jeter l'éponge. Ça serait une possibilité justement de freiner la progression de ces messieurs qui disent s'appeler des rebelles, faire Port-au-Prince, de les contenir dans une certaine mesure et d'essayer, autant que faire se peut, de recoller les morceaux, un pouvoir de transition, des élections et le cycle qui recommence.
Alors on verra dans quelques minutes quelles sont les possibilités de sortie de crise, mais avec vous Anne, on va revenir un petit peu au déroulement des événements après la manifestation de Port-au-Prince du dimanche 15 février. Nous sommes maintenant le jeudi 16 février et nous sommes à Saint-Marc.
Oui, à Saint-Marc où, comme dans beaucoup d'autres villes du pays, le commissariat a été incendié par les milices du Ramikos, qui sont donc de l'opposition. Le port autonome a été pillé par la population du quartier de l'opposition. Mais après, il y a eu une reprise en main, plutôt sévère et violente, voire très violente, par la police et par ces fameux balayouzés qui sont également des miliciens armés à la solde du président Aristide. Alors, quand nous sommes arrivés à Saint-Marc, la répression avait déjà eu lieu et la ville était vraiment aux mains de la police et surtout de cette milice.
Reportage.
Saint-Marc, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Port-au-Prince. Le local des balayouzés, ces miliciens armés à la solde du président Aristide, se trouve sur la route principale dès l'entrée de la ville. Trois hommes veillent sur le trottoir, assis, fusil à pompe au pied. Dans la cour, des bouteilles de rhum vides jonchent le sol. Sous la véranda attend Amanus Maët, député de Saint-Marc.
Il y a un climat de paix actuellement à Saint-Marc, mais la police a beaucoup travaillé pour stabiliser cette situation. Et on peut quand même compter sur la participation de la police et la population. Le président Aristide a le plein soutien de la population.
Quelques rues plus loin, dans le quartier de la Syrie, fief de l'opposition, fument encore les ruines de maisons incendiées.
Qu'est-ce que vous regardez là ?
Un mort, quelqu'un qui est mort.
Encore un cadavre ?
Oui.
Il y en a eu beaucoup ?
Je ne sais pas, moi, c'est présentement que je suis venu voir les dégâts et puis là, c'est le résidu d'un corps. C'est triste, c'est écœurant quand même. Civil ou pas, armé ou pas, mais c'est écœurant. La situation est critique. Il faut qu'on apporte une solution, il faut que ça change. Parce qu'en tant que jeune, je me demande où est mon avenir. C'est difficile à accepter, c'est difficile à comprendre.
Et là encore des ruines fumantes. Vous habitez à côté ?
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé ici ?
C'est balisé. Chef Yo.
Ils ont tué beaucoup de personnes ici.
La police qui tire. Au boulet, ils ont tiré le monde.
Et on tire des personnes et puis après qu'on lance dans le feu, c'est ce que je viens de raconter.
Nous avons peur de parler.
Pourquoi vous avez peur de parler?
On risque de se laisser tuer. On peut nous trouver et puis nous passer à l'infinitif.
Ça veut dire vous tuer?
Oui. la vérité dans ce pays, c'est difficile à dire.
Là, cette maison-là aussi, elle a été brûlée. Madame, vous connaissez le gens de la maison?
Petite femme.
C'est mon fils, c'est le corps de mon fils. Il a pris 2 balles dans les jambes. Il sortait de la menuiserie où il travaille et il a vu que la police était là. Il a essayé de rebrousser chemin, mais ils lui ont tiré dessus. Ses 2 jambes ont été touchées. J'ai essayé de le sauver, de l'emmener à l'hôpital, mais il était trop lourd. Mon fils avait 22 ans. La police l'a jeté vivant dans les flammes de cette maison et je n'ai pas pu le sauver. J'ai perdu mon seul enfant. Il était menuisier. Il s'appelait Jean-Baptiste Saint-Just-Quénold. Jean-Baptiste, il s'appelait. Jean-Baptiste.
Le quartier de la Syrie est désert. Un cochon fouille sous une carcasse de voiture brûlée. Assis sur le seuil de sa boutique fermée, faute de clients, un homme grignote une canne à sucre. Il préfère rester anonyme.
Dans ce quartier, il y a plus de 4000 personnes.
Et aujourd'hui?
Il n'y a que moi et 2 autres voisins. Tout le monde est parti. Ils sont à la campagne. Ils ont peur des répressions. Moi, je ne peux pas fonctionner. Mon business reste fermé. Je suis seul ici. Seulement avec mon ami.
Le curé, lui, avoue peut sortir de son presbytère qu'il ne considère pas comme un sanctuaire. Tout peut arriver ici, dit le père Max Leroy-Mésidor.
À partir de 4h, 5h, les gens rentrent chez eux. Si vous avez une messe à 5h ici, l'assistance est très peu nombreuse. Hier après-midi, on a eu la messe. On a eu 100 de personnes. D'habitude, il y a 400, 500. Mais il y a eu à peine 100 hier. C'est certain, il y a une peur. Les gens qui restent sont obligés de rester. Et tout le monde a peur. On tire le soir, évidemment, les gens ne sont pas habitués à ça. Et puis les gens, ils vivent dans des maisons de fortune, leurs maisons ne sont pas solides. Donc à n'importe quel moment, une balle peut traverser la maison, on peut les atteindre. À ce moment-là, on a peur. Tout le monde a peur.
Après Saint-Marc, la route file droit vers les Gonaïves. Les commissariats de toutes les localités traversées sont pillés ou incendiés. À l'entrée de la ville, tenue par le front, une barricade bloque le passage. Juché sur une carcasse de voiture brûlée, un homme interpelle les passants.
Aristide, trafiquant de drogue, voleur, criminel. Aristide, incendié des maisons, brûlé des gens. Les chimères Lavalas sont des criminels, voleurs, voleurs. On n'a pas besoin de ces criminels. Aristide est responsable de la mort de tous ceux qui ont été tués dans le département de l'Artibonite. Aristide a envoyé des chimères pour incendier des maisons, brûler vifs des gens, même des petits bébés.
Toutes les rues de la ville sont jonchées de troncs d'arbres, de tôles, de véhicules incendiés. Une femme du quartier de Raboto crie devant sa bicoque plantée le long de la route sableuse qui mène au QG du front armé.
La police d'Aristide a tiré sur la population de Raboto. Nous ne voulons pas négocier avec le président Aristide. La seule chose qu'il a à faire, c'est de quitter le pays. Dehors, Aristide, dehors. Nous sommes au chômage et nous n'avons rien à manger. La police est notre ennemi. Dehors, Aristide, dehors. Nous ne voulons plus d'Aristide dans le pays. En attaquant le quartier de Raboto, Aristide a perdu toutes ses chances. Il a tué Amio Métayé, il lui a arraché les 2 yeux et il a envoyé ses forces ici pour nous massacrer. Il n'y a pas de négociation possible. Seul son départ est possible. Dehors, Aristide, dehors.
Les hommes du front chantent le même refrain que les manifestants de Port-au-Prince, mais eux sont armés, ils entourent leur chef, buteur Métayé.
Si Aristide quitte le pays, nous nous engageons à nettoyer toute la ville. Nous sommes aussi prêts à remettre toutes nos armes aux Nations Unies. Nous déposerons nos armes dès le départ d'Aristide et nous les donnerons soit à l'ONU, soit au nouveau gouvernement provisoire. Nous sommes prêts à faire cela. Nous n'avons pas l'intention de former un groupe de rebelles armés. Actuellement, nous nous battons contre le président, c'est tout. Nous ne luttons pas contre le gouvernement dans son ensemble, seulement contre Aristide. Si Aristide part, Haïti sera libéré.
Winter Etienne, maire autoproclamé des Gonaïves.
On compte libérer Haïti. Libérer Haïti d'Aristide et de ses vampires.
En combien de temps vous pensez réussir ça?
Un peu de temps. On ne va pas dépasser le mois de mars. On va libérer Haïti. On va le faire. On a cette foi. Si Aristide veut vivre longtemps, Il a qu'une seule solution, laisser le pouvoir.
Depuis que le front armé occupe les Gonaïves, il n'y a plus d'électricité, de téléphone, l'essence vient à manquer. On attend à l'unique station-service ouverte de la ville.
Nous sommes ici depuis 7h du matin. Maintenant, il est 11h. Rien ne fonctionne pas ici. Le problème le plus chaotique, le plus pire, c'est le problème d'essence, problème de carburant. Que nous n'avons pas vraiment à travers les pompes. Vous voyez comment les taxis, les pick-up, ils sont remplis ici, mais pas d'essence.
Au marché, les commerçants font grise mine. Comment ça marche les affaires?
Pas bien, parce que on ne peut pas rentrer Gonaïves, on ne peut pas même aller à la capitale. Les acheteurs qui ont l'habitude de venir acheter dans nos mains, ils ne peuvent pas venir. Et nous aussi, nous ne pouvons pas aller acheter. Ce pays est typiquement bloqué. Bloqué. On ne peut pas vivre bien du tout.
Pierre-Robert Auguste, président de l'Association des entrepreneurs de l'Artibonite.
Gonaïves et l'Artibonite jouent un rôle primordial dans l'économie du pays. Ce serait le Francfort ou bien le New York d'Haïti. Et c'est la seule ville du pays qui a des relations directes et étroites avec 5 autres départements. Et c'est le deuxième bassin démographique du pays. Et il y a aussi l'économie agricole. Donc Gonaïves et l'Artibonite représentent un potentiel assez important. Malheureusement, la situation a des conséquences graves sur le fonctionnement de l'économie. Ça représente un coût énorme pour nos autres entrepreneurs. Cependant, si c'est le sacrifice qu'il faut pour obtenir le départ de Aristide, nous sommes prêts à payer ce prix.
La nuit, personne ou presque ne circule dans les rues de Gonaïves. Le front patrouille en armes, les gens préfèrent rester chez eux.
Il y a moins de monde dans les rues, depuis le front prend le contrôle du pays. Le soir, même dans la journée, parce qu'ils ont peur.
Peur du front?
Non, pas le front. Surtout le soir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité, le soir, pas d'éclairage dans la rue. Les prisonniers sont évadés de la prison. Il y a beaucoup de criminels dans la rue. Les fonds font patrouille dans les rues, surtout le soir. Mais ça n'a pas empêché que la population soit vraiment peur.
Qui sont ces gens du front?
Il y a beaucoup de monde, à peu près 300-350. Les anciens membres de l'armée d'Haïti. Et puis les jeunes qui se sentent pas bien dans ce pays.
Et est-ce que vous avez confiance dans ces gens du front?
Bon. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est dangereux.
C'est dangereux de mettre en cause le front?
Ouais, c'est dangereux. Rester indépendante, c'est beaucoup mieux.
Douter des bonnes intentions du front armé au Gonaïves ne se fait pas, ou alors seulement sous couvert de l'anonymat.
Reportage d'Anne Corpé qui illustre bien la profondeur de la crise, hein, l'impasse politique, un pays bloqué, hein, comme on le dit dans le reportage. Christian Giraud, en imaginant donc que finalement toutes les délégations puissent venir à Paris, même si elles ne se rencontrent pas, c'est forcément via l'étranger que la sortie de crise est à envisager.
Je pense que oui. Là, maintenant, d'après ce reportage qui est très intéressant, on voit qu'il y a un problème de sécurité personnelle. La sécurité n'est pas assurée. Et d'autre part, il va y avoir un problème d'alimentation, un problème d'approvisionnement alimentaire, puisqu'en fait, comme le disait un des personnes interviewées, les routes sont coupées. Donc, le riz n'arrive pas, la farine n'arrive pas, il n'y aura pas de pain chez les boulangers. Et donc, très bientôt, la population va souffrir d'une manière incroyable.
Oui, l'association humanitaire CARE demande d'ailleurs l'aménagement d'un couloir humanitaire, notamment pour aller dans le nord et pour approvisionner.
Oui, parce que les dépôts de la CARE ont été pillés. Donc, au Cap Haïtien et au Gonaïves, tous les dépôts, c'est-à-dire toutes les réserves qui existaient et qui servent à alimenter des centaines de milliers de gens dans tout le nord-ouest, dans tous les villages du nord-ouest, qui dépendent de ces approvisionnements alimentaires, ne les reçoivent plus maintenant parce que les dépôts n'existent plus.
Anne Corpé.
Oui, et concernant la sécurité, la situation est encore plus fragile dans le centre du pays, qui est sous contrôle des rebelles, mais sous contrôle purement théorique, parce qu'en fait, les rebelles sont venus par exemple à Hinche, capitale du centre, mais aussitôt la ville conquise, c'est-à-dire aussitôt les policiers partis, ils sont repartis également. Donc là, il n'y a plus du tout de force pour faire régner l'ordre, et la population est très inquiète.
Gros problème de sécurité, et d'ailleurs, la proposition française, notamment, c'est de déployer une force, mais une force de police, hein, pas force militaire, une force de police internationale.
Exactement, ce qui nous fait revenir à quelque chose qui, à mon avis, est assez important, c'est que finalement, malgré tout ce qu'il a pu faire, le pouvoir de Jean-Bertrand Aristide, le pouvoir, voilà, c'était un pouvoir totalement, complètement désorganisé. Quand il s'était agi de terroriser les journalistes, les membres de l'opposition, les activistes des organisations de défense des droits de l'homme, les chimères avec quelques poids. Mais aujourd'hui, face à des gens armés, on voit bien que ces policiers, d'abord, sont en train de décamper. On voit, par exemple, comment ils ont détalé comme des lapins dans les commissariats des départements du Nord. On voit qu'aujourd'hui, ils ne sont pas très, très chauds pour aller au front, pour défendre, finalement, ce pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce régime ne tient qu'à un tout, tout petit fil qui peut être rompu à n'importe quel moment.
Alors, un petit fil qui peut être rompu, la France, on l'a bien compris, a de fait, hein, de facto, lâcher Jean-Bertrand Aristide, lui demandant de partir. Du côté des États-Unis, Christian Giraud, c'est un petit peu moins net. Hein. La France est très à la manœuvre, les États-Unis sont plutôt en retrait. Ils ont déjà vécu des situations pas évidentes, c'est eux qui y avaient réinstallé.
C'est ça, ils ont vécu des situations similaires il y a quelques années, et ils n'aiment pas certainement le président Aristide. Le président Aristide est un personnage relativement douteux du point de vue des Américains, mais ils préfèrent l'ordre constitutionnel existant plutôt qu'un chaos généralisé. Donc, parce qu'on est en année électorale, les Américains n'envisagent pas, ce serait très impopulaire, une nouvelle expédition militaire. Ils n'imaginent pas exactement de quelle importance serait cette expédition militaire. Est-ce que ce serait simplement quelques policiers qu'il faudrait dépêcher, ou quelque chose qui soit un peu plus important pour ramener l'ordre et le calme dans le pays? Et ça, c'est très impopulaire aux États-Unis. Et donc, le président Bush ne souhaite pas pour l'instant intervenir.
Et ce qui est très intéressant, c'est que sur place, les deux partis revendiquent le soutien des Américains. C'est-à-dire que l'opposition dit les États-Unis doivent nous aider à nous débarrasser de ce régime dictatorial, et les partisans d'Aristide disent les États-Unis doivent nous aider à se débarrasser de cette rébellion armée.
Il y a urgence donc, Philomé Robert, que la délégation, par exemple, de la plateforme démocratique, hein, qui représente en plus pas mal la société civile, trouve effectivement un avion pour venir, et même s'il n'y a pas ce fameux dialogue, malgré tout, qu'il y ait l'amorce d'une solution vers
un gouvernement de
transition.
Il y a urgence parce que la situation est partout catastrophique. On n'imagine pas Haïti toucher davantage le fond. On ne peut pas aller plus bas. Et aujourd'hui, les gens sont complètement désespérés, et c'est un pays qu'il faut carrément sauver. Et bien entendu, ça sera avec les gens de la communauté internationale, bien entendu, et aussi et surtout avec les Haïtiens eux-mêmes.
Dans le reportage d'Anne, on entend l'un des personnes, des militants qui ont pris la ville, dire on est prêt à déposer les armes. Et malgré tout, on a le sentiment qu'il n'y a pas de volonté d'aller jusqu'au chaos.
Personnellement, j'hésite à faire confiance à ces gens en armes. Quand on pense à leur personnalité, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, j'hésite à leur faire ce crédit, en espérant qu'ils disent ouais, peut-être qu'on pourra sortir en tout cas voir un début de solution à ce chaos qui s'annonce.
Philomé Robert, merci. Christian Giraud, merci d'être venu à ce micro. Anne Corpé aussi, merci également à Manu Pochet.
Un des hélicoptères de la sécurité présidentielle se pose sur la pelouse devant le palais national. Des forces spéciales en uniforme bleu marine sautent à terre et rejoignent une vingtaine de soldats qui sont déjà assis nonchalamment sur les marches qui mènent au palais. L'homme qui fait signe de sortir de l'hélicoptère est un blanc. Il n'est pas haïtien. Médusé, un badaud regarde derrière les grilles cette force inconnue sécuriser le palais national.
Avec leur tenue, on n'a jamais vu et ces gens s'habiller de cette façon. On se pose la question, est-ce les hommes du front, est-ce les hommes de Guy Philippe, on ne sait pas encore. Et on est tous étonnés de voir ces gens-là vêtus de manière de ce bleu-là, on ne sait pas de quelle force ça a été.
Ce ne sont pas encore les marines qui sont là. Les premiers éléments américains restent pour l'instant sur l'aéroport de Port-au-Prince. Les premiers marsouins français, eux, n'arriveront qu'au petit matin. Mais beaucoup d'Haïtiens les attendent déjà avec impatience.
Sécurité aujourd'hui, on attend les marines. S'ils viennent pour nous apporter la démocratie, on les attend à bras ouverts. Mais s'ils viennent passer le chaos, parce que les chimères qui sont toujours armés, il y aura beaucoup trop de sang dans la rue. Hein? Ce sera le chaos total. Donc maintenant, c'est à Jacques Chirac, à M. Bush et au Premier ministre canadien de venir nous aider. On les attend là.
Manu Pochèze, Catherine Monet, Port-au-Prince, RFI.